Bonsoir, Nicolas Hulot veut devenir président de la République française. L'animateur de télévision tente sa chance, celle d'une personnalité indépendante, extérieure au sérail politique. Nous allons sonder les éventuels candidats en Suisse au rôle de Nicolas Hulot national. Dans le casting ce soir, Bertrand Piccard, l'homme de l'avion solaire, et Franz Weber, l'éternel militant de la cause écologique. Ils nous donnent leur réponse d'ici quelques minutes. À Berne, dans ce Parlement que le monde entier nous envie, le Conseil national a refusé de soumettre à référendum populaire tous les grands traités internationaux signés par la Suisse. C'est ce que propose une initiative populaire de l'ASIN, soutenue par l'UDC, seul contre tous sur cette question. Faut-il confier au peuple les commandes de la politique extérieure de la Suisse? Va-t-on étouffer la démocratie directe sous un afflux de votations? Oscar Freisinger et Isabelle Moret en débattent d'ici 18h15. Jacques Attali est notre invité, l'ancien conseiller de François Mitterrand, cède à son tour, je le disais, au charme du système suisse. Le monde doit s'inspirer de la Suisse, dit-il, pour mettre sur pied le système de gouvernance dont le monde a besoin. Il s'en explique, Jacques Attali, ce sera sur le coup des 18h50. L'immigration africaine aura révélé une Italie isolée, vitupérant contre l'Union européenne, accusant ses voisins de la laisser seule gérer le flot d'immigrés. L'Italie, en fait, elle trop l'Europe, a-t-elle laissé tomber l'Italie? C'est ce dont on va débattre sur le coup des 18h40. À Genève, Christian Ferrazzino et Pierre Muller ressortent blanchis pénalement du fameux scandale de la rue du Stang. C'est l'information que nous révèle Mathieu Cuplin dans quelques minutes. Le procureur exclut toute poursuite pénale contre les deux anciens magistrats de la ville de Genève. On s'arrêtera aussi une minute sur l'assourdissant silence du Conseil d'État vaudois, un peu gêné manifestement. Il vient de se faire taper sur les doigts par la justice en matière de système de retraite des fonctionnaires. Personne ne désire s'exprimer ce soir. Patrick Lefort nous décrira comment Pierre-Yves Maillard, Pascal Broulis, Jean-Claude Mermoux effectuent un mouvement qui s'assimile à ce que l'on décrit parfois de façon imagée comme une manière de se passer la patate chaude. À 18h58, la météo de Carole Dubuis, elle nous annonce des nuages, quelques averses en montagne, 15 degrés maximum en plaine, du soleil et de la bise au programme des vendredis. La météo, c'est à la fin de ce forum.
Forum, Nathalie Ducommun, Philippe Reva.
Et le drame de Fukushima n'a pas que des incidences sur la vie politique suisse. Il est aussi source d'inspiration pour les assureurs. Une importante compagnie d'assurance vient en effet de se fendre d'un courrier à ses clients bavalaisans, faisant explicitement référence aux derniers tremblements de terre, je cite, qui ont frappé la planète ces derniers mois, pour leur rappeler qu'ils ne sont pas couverts contre les dégâts dus au séisme. Une offre de couverture, du coup, évidemment, complète ce courrier. Claude Defago, vous êtes en direct de notre studio de Sion. Claude, de là à penser que le malheur des uns fait le marketing des autres, il n'y a qu'un pas.
Il n'y a qu'un pas que cette compagnie et son agent général se défendent, vous vous en doutez bien, de vouloir franchir. Il y a certes une prise de conscience de ce problème, mais elle est partagée entre les clients et les compagnies d'assurance. Les compagnies, parce que la plupart d'entre elles ont ce produit dans leurs offres actuelles. Il est proposé soit systématiquement, soit au renouvellement de police, soit sur demande. En fait, si on parle aujourd'hui beaucoup du Japon, en Valais, l'une des trois zones hautement sismiques de Suisse avec la vallée du Rhin et la région baloise, en Valais, disais-je, ce sont les trois secousses de Sierre en janvier dernier qui ont provoqué le déclic. Il y a donc effectivement business, mais il y a aussi inquiétude des propriétaires de biens immobiliers.
Oui, parce que ce qu'on découvre, c'est que ce type de dégâts n'est effectivement pas assuré en Suisse.
Non, les propriétaires assurés ne sont qu'une minorité, une toute petite minorité, et ils l'ont fait à leur demande. Cette assurance n'est pas obligatoire et les compagnies ne la proposent pas. Il n'y a pas en effet de fonds qui soient communs aux assurances pour répondre à un éventuel sinistre. Certaines en ont un, mais il est limité par rapport à un séisme de très grande ampleur. Autre défaut, le prix. S'agissant d'une couverture privée, elle correspond à la prime incendie. Obligatoire et généralisée, elle serait moins chère. À noter que dans certains cantons, en Valais par exemple, l'assurance incendie n'est pas obligatoire non plus.
Alors Claude Defago, Fukushima est passé par là, si j'ose dire, donc la situation pourrait changer.
Elle pourrait en effet évoluer sous la pression des événements en Suisse ou à l'étranger. L'action entreprise en ce moment dans les régions les plus exposées, notamment par plusieurs assureurs, comptera également. Et puis, un autre facteur pourrait avoir un effet, les prêts hypothécaires accordés par les banques. Aujourd'hui, elles exigent une assurance incendie. Sans aller jusque-là, certaines ont entamé une réflexion qui viserait à accorder des taux plus favorables à qui construit de manière antisismique et ou s'est assuré.
Claude Defago, merci.
Nicolas Hulot a annoncé tout à l'heure sa candidature à l'élection présidentielle française 2012. L'animateur de télévision n'a pas précisé s'il participerait à la primaire organisée par le parti Europe Écologie Les Verts, dont il s'est dit le plus proche. La politique attire parfois ce genre de personnalité hors sérail, indépendante, avec des avantages, des risques aussi parfois. On a voulu se demander ce qu'il en était en Suisse, ce qu'il pouvait en être avec d'éventuels Nicolas Hulot potentiels, toute proportion gardée. Bertrand Picard est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes initiateur de Solar Impulse, le fameux avion solaire. Vous êtes une figure de l'écologie au sens large, Bertrand Picard. D'abord, si on dit Nicolas Hulot national, vous acceptez la comparaison?
Écoutez, je crois que Nicolas Hulot joue surtout sur le côté média. D'ailleurs, c'est un homme des médias. Moi, à l'origine, je suis médecin. Avec André Borchberg, nous gérons le projet Solar Impulse, qui est un projet scientifique. Donc là, comparaison est facile, mais je ne dirais pas complètement juste.
Et vous êtes tenté, Bertrand Picard, vous êtes très actif en matière d'écologie, vous donnez des conseils aussi, votre vision, hein, le solaire, les énergies renouvelables. Entrer en politique, ça vous titille?
Mais j'ai l'impression que je fais de la politique depuis des années, mais la seule chose, c'est que je ne le fais pas dans un parti. Parce que le problème, c'est que vous avez, avec la protection de l'environnement, une partie qui sert la gauche et les verts par le biais de l'écologie, et vous avez une partie qui sert la droite, l'industrie et la finance, grâce au clean tech, qui vont protéger l'environnement, mais aussi créer des emplois, permettre des nouveaux produits et ouvrir des nouveaux marchés. Donc, comment est-ce qu'on peut choisir un parti dans lequel entrer sans se mettre des autres sur le dos et surtout sans hypothéquer une grande partie de son message? Donc, moi, je ne veux surtout pas entrer en politique dans un parti. Je crois que Solar Impulse, c'est un message politique, mais en aucun cas partisan.
Vous avez eu des propositions, j'imagine, tout de même, Bertrand Picard.
Écoutez, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai effectivement eu des propositions de tous les partis, que ce soit depuis la gauche jusqu'à la droite, ce qui veut dire que mon message, effectivement, est un message dans lequel la plupart des gens se reconnaissent. Et je crois que c'est un message de consensus que nous voulons amener avec Solar Impulse, un message d'optimisme et de solution. Et ce n'est pas un message de catastrophisme et de racolage de voix.
Bertrand Picard, il y a aussi des risques d'aller en politique. Alors vous le disiez, on se met à dos certains partis. Mais en même temps, le Parlement, c'est là que se fait l'avenir d'un pays, que s'écrivent les lois. Est-ce qu'il ne faudrait pas franchir le pas en se disant, bah, tant pis, j'y vais quand même et puis je défends mes positions, même s'il y a des désavantages?
Mais si la seule manière de faire de la politique, c'était d'entrer dans un parti, peut-être que je me mouillerais. Et peut-être qu'en France, c'est ça qui a poussé Nicolas Hulot à se mouiller. Mais j'ai l'impression que quand on donne des interviews comme celui-ci, qu'on parle en même temps de protection d'environnement et de création d'emplois et de développement industriel et de croissance des clean tech, on est finalement beaucoup plus dans la politique que si on est simplement dans des débats gauche-droite, dans un clivage qui finalement paralyse beaucoup les décisions. Et je pense que l'écologie a souvent été prise en otage par des partis, ce qui fait que certains partis, en tout cas de droite, ont des réticences à adopter des propositions qui viennent de la gauche, même si elles sont favorables à l'environnement et à l'économie nationale. Donc, je dirais que dans les grands domaines comme celui-là, comme celui de l'environnement, c'est dommage d'avoir des partis qui se battent là autour. Je comprends que les partis se battent pour autre chose, mais ça devrait être hors parti.
Restez avec nous, Bertrand Picard, parce qu'une autre figure de l'écologie appliquée, un combattant solitaire, on va dire, de l'écologie, nous a répondu, c'est Franz Weber, on ne le présente plus. On lui a demandé si lui, l'exemple de Nicolas Hulot pouvait l'inspirer.
Personnellement, je fais partie d'aucun parti, parce qu'il y a toujours des compromissions, n'est-ce pas, des arrangements que je ne veux pas. Donc je suis totalement libre, pour ça je fais partie d'aucun parti.
Vous me disiez tout à l'heure, Franz Weber, vous faites de la politique avec un grand P, ça veut dire quoi?
Ça veut dire je m'engage pour des choses justes et aussi pour des choses qui sont essentielles à la vie de l'homme, n'est-ce pas? Et aussi à son évolution et aussi à ses progrès, etc. C'est ça qui est important pour moi, à ce qu'on évolue. Nous devons évoluer, n'est-ce pas, et comprendre la vie, comprendre les rouages de la vie.
Mais Franz Weber, ça veut dire que l'autre politique, la vraie politique, entre guillemets, c'est avec un petit P, c'est quelque chose qui est moins noble, au fond?
Je ne veux pas dire, parce qu'il faut, bien sûr, il faut aussi passer par là. Mais c'est pour moi, parfois, souvent, parce qu'il y a tout le temps des arrangements, n'est-ce pas? Et on est, parce que tout à coup, quelqu'un est en difficulté, donc bon, d'accord, j'accepte. Et c'est ça qui est grave, vous comprenez? Moi, je suis toujours pour l'essentiel. Qu'est-ce qui sert l'homme? Qu'est-ce qui sert nos descendants? Qu'est-ce qui sert nos enfants? Je pense toujours à ça. Alors, si ça coïncide pas avec ma conviction intérieure, je ne peux pas le faire.
Au fond, vous pourriez être dans un seul parti, c'est le parti Franz Weber.
Je ne veux pas dire le parti Franz Weber, simplement c'est l'évolution de l'homme, c'est le progrès effectif de l'homme, n'est-ce pas? C'est ça qui m'intéresse.
Vous admettrez, Franz Weber, la politique, la société, ce qui intéresse les gens, on modèle notre futur aussi avec des lois à Berne, au Parlement. On a besoin d'y être. Est-ce que vous n'avez pas été tenté d'y être vous-même une fois? Pourquoi pas, par exemple, chez les Verts ou les Verts libéraux, que sais-je, pour faire les lois que vous voulez?
Mais attention, avec mes initiatives, mes campagnes, je marque quand même terriblement la politique fédérale, je vous assure. Il y a des progrès qui se sont faits grâce à ces campagnes, à ce oui, parce que les gens n'en peuvent plus de tous ces arrangements. Et alors, moi, j'exprime un peu cette volonté. Et alors, on tient compte. Je suis une ligne droite à mes yeux, n'est-ce pas? Alors, je ne regarde pas ce que font les autres à ce moment-là. J'essaie toujours de donner un peu l'exemple d'un être intègre.
Nicolas Hulot, il fait une erreur, à votre avis?
Non. Il fait tout ce qu'il peut. Je trouve que c'est magnifique qu'il existe. C'est très important.
Malgré les compromissions, malgré la politique.
Oui, bien sûr. Bon, vous savez, il doit passer par là. La plupart des gens doivent passer par là parce que le progrès se fait comme ça. Rien n'est parfait. Et moi, je marche sur la grande ligne, vous comprenez.
Il marche sur la grande ligne, Franz Weber. Bertrand Piccard, vous êtes d'accord avec Franz Weber quand il dit compromission, la politique, les petits jeux, tout ça? C'est aussi ce qui vous retient de vous engager?
Oui, mais dans un sens, oui, mais pas seulement. J'ai l'impression que dans les grands débats de notre temps, il faut créer des solutions gagnant-gagnant et pas simplement des compromissions. La compromission, c'est quand on cherche l'intersection de deux idées pour arriver plus ou moins à se mettre d'accord. Ce qu'il faut, c'est voir dans quel domaine chacun peut clairement gagner quelque chose. Et en ce moment, on voit bien avec les changements climatiques, on peut à la fois protéger l'environnement et développer des nouveaux marchés pour des nouvelles technologies qui peuvent permettre la croissance du pays et les économies d'énergie en s'affranchissant des énergies fossiles avec toutes les énergies renouvelables et les profits qu'on peut en tirer.
Bertrand,
il s'agit d'un autre débat, il s'agit d'un débat qui doit être rassembleur et pas un débat qui doit être clivé. Et ça commence à marcher. Vous me demandez mon implication politique. J'ai été discuté avec toute une série de conseillers aux États juste avant la loi, juste avant le vote de la loi pour la diminution du CO2. Et c'était fabuleux de voir à quel point ces conseillers aux États étaient prêts à comprendre comment la loi sur le CO2 allait pouvoir permettre de galvaniser, de dynamiser les entreprises suisses. Et il y en a un qui m'a dit « Vous devriez venir dans mon parti ». Et je lui ai dit « Mais imaginez-vous que je sois dans
c'était
un parti adverse au vôtre. Est-ce que vous me parleriez aujourd'hui ?» Et il m'a dit « C'est vrai que si vous étiez dans un parti adverse, vos arguments porteraient moins ». Donc on voit bien, il faut des gens qui sont dans les partis parce que c'est nécessaire également, mais il faut aussi des gens hors parti. Alors Nicolas Hulot a réussi à être hors parti aux dernières élections françaises quand Sarkozy a passé. Il a réussi à mettre son emprise, ou disons son empreinte plutôt, autant sur la gauche que sur la droite. Maintenant, il franchit le pas d'être candidat et je pense qu'il va se griller avec tout le monde. Je pense que c'est une mauvaise décision s'il veut vraiment faire passer ses idées.
Mais Bertrand Piccard, on a deux politiciens actifs qui sont avec nous pour un tout autre sujet, mais ils vous écoutent très attentivement à notre studio du Palais fédéral. Oscar Freisinger et Isabelle Moret. Oscar Freisinger, quand vous avez entendu Franz Weber dire « c'est compromission, moi je suis ma ligne, droit dans mes bottes en quelque sorte », ça vous parle ça? Parce qu'on entend parfois l'UDC dire ça aussi, les petits jeux politiques, c'est pas bon. Il y avait comme un écho là. Vous acceptez la parole? Ou pas?
Donc, je suis droit dans mes bottes, je suis une ligne, donc je me suis engagé pour la souveraineté de ce pays, c'est la seule raison fondamentale autour de laquelle toute ma démarche politique est construite. Alors évidemment, oui, qui fait trop de compromissions se compromet, donc c'est quand même un problème. Pour ma part, je pense qu'il est tout à fait possible d'être dans le domaine politique et de rester droit et de ne pas commencer à tricher. Par contre, pour Hulot, ça, on a déjà eu connu donc les personnages venant du show business, plus ou moins, qui s'engagent, une fois qu'ils sont confrontés à la dure réalité de ce qu'est le débat parlementaire, de ces différents intérêts, lobbies, etc., c'est pas évident parce qu'ils surfent sur leur notoriété, mais ensuite ils doivent mettre les mains dans le cambouis. Ils sont plus le gentil Nicolas Hulot qui apparaît sur un écran télévisuel, ils deviennent un facteur dans un jeu de tension. Et ça, c'est pas toujours facile. Je vous rappelle que Jean-Charles Simon, votre collègue, a tenté le coup et qu'après 4 ans, il en a eu assez.
Il en a eu assez, effectivement. Bon, il recommence au niveau communal.
Oui, voilà, ça va un peu mieux.
Isabelle Moret, tout ce qu'on entend à la fois Bertrand Piccard et Franz Weber, c'est quand même un certain pessimisme, scepticisme en tout cas sur le jeu politique. Vous êtes déçu quand vous entendez ça?
Écoutez, non, parce que je me souviens par exemple de Monsieur Piccard qui a pu intervenir au Parlement fédéral. C'est un des rares à avoir pu parler aux parlementaires directement dans la salle du Conseil national. Et je me souviens qu'il a été écouté avec beaucoup d'attention. Donc ses paroles ont porté, son message a touché les parlementaires. Donc c'est la beauté aussi de notre système démocratique suisse que les parlementaires, ce ne sont pas des gens qui sont éloignés des citoyens. Nous sommes élus régulièrement. Il y a la démocratie semi-directe avec le système d'initiative et de référendum qui fait que nous devons écouter beaucoup plus qu'en France, par exemple, ce que pense la population et en tenir compte dans nos décisions. Et donc, lorsque des personnalités comme M. Piccard interviennent, nous les écoutons parce que c'est clair qu'ils ont une influence sur nous, mais aussi sur les citoyens.
Est-ce que vous êtes envieuse quand vous les entendez? Parce que c'est un peu deux hommes libres, ou du moins qui se disent libres, qui parle à la fois Franz Weber et Bertrand Piccard. Ils ne sont pas liés par ces liens qu'on doit avoir en politique pour faire passer des objets. Ça vous tente pas de temps en temps, Isabelle Moret? Vous ne sentez pas un peu prisonnière justement de ces jeux d'influence, d'alliance?
Mais il faut bien comprendre que si vous voulez faire avancer des projets, avoir une vision pour la Suisse et améliorer le quotidien des gens, eh bien, dans notre système de concordance, vous devez construire des majorités. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Améliorer concrètement, faire avancer les choses pour les citoyens et pour l'avenir du pays. Et dans notre système actuel, au vu des forces des différents partis, il faut une majorité de 3 partis pour faire avancer un projet. Et moi, j'aime bien pouvoir essayer de convaincre des collègues dans d'autres partis et pour construire une majorité. Et si je vous donne par exemple, je me suis beaucoup investie pour la réduction fiscale des frais de garde pour enfants. Je demandais 24 000 francs. Eh bien, les socialistes, eux, voulaient un rabais d'impôt, ce qui fait que beaucoup plus de citoyens ne payeraient plus l'impôt fédéral direct. J'étais contre. Mais on a trouvé finalement une solution où la gauche a eu une partie de son rabais d'impôt, pas autant qu'il voulait. Et moi, j'ai obtenu ce que je voulais, 10 000 francs par année par enfant. Donc, vous voyez, ça fait une construction avec le PDC, avec 3 partis, où on a pu améliorer concrètement la vie des familles depuis le 1er janvier 2011.
Alors Bertrand Piccard voudrait peut-être pas améliorer la vie des familles, mais celle de l'écosphère. Ça vous tente pas ce que dit Isabelle Moret? C'est une autre manière de travailler. Hein.
Mais oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. En même temps, il faut des voix multiples. La voix parlementaire est une voix que je respecte profondément parce qu'elle est la garante de notre démocratie et il la faut. Maintenant, il faut aussi, je pense, des gens hors parti qui puissent aller parler aux représentants de tous les partis différents pour essayer de faire ce travail de mise en commun, de d'avantages communs dans une solution gagnant-gagnant. Et il y a cette liberté de parler à tous les partis qui est quelque chose que je pense fondamentalement important parce que je suis vraiment convaincu depuis les années que j'observe la vie politique suisse, c'est que dans chaque parti politique, quel qu'il soit, il y a des très bonnes idées et des idées moins bonnes. Et dans chaque parti politique, quel qu'il soit, il y a des très très bons politiciens et des moins bons. Par conséquent, déjà, comment choisir un parti? Moi, je me ferais éjecter immédiatement du parti que je choisirais, parce qu'une fois sur 3, je voterais certainement pour l'idée de l'autre parti qui serait meilleur.
Mais parfois, ça aide à se faire élire, hein, dans certaines conditions, parce que du coup, on a les voix de gauche quand on est à droite et vice-versa. Je vous remercie beaucoup, Bertrand Piccard, d'être venu quelques instants. On a commenté, on a réagi à cette annonce, Nicolas Hulot qui se lance à la présidentielle en France. Franz Weber était avec nous tout à l'heure. Oscar Freisinger, Isabelle Moret, vous restez avec nous. Bonne soirée, Bertrand Piccard.
Merci beaucoup à vous aussi.
Oscar Freisinger, Isabelle Moret, vous êtes avec nous pour débattre d'un sujet un peu plus terre à terre. C'est le Conseil national qui ne veut pas de l'initiative populaire La Parole au Peuple, issue de l'ASIN, l'Association pour une Suisse indépendante et neutre, soutenue uniquement par l'UDC. C'est un texte qui demande que le peuple se prononce sur tous les traités internationaux jugés importants ou alors qui entraînent des dépenses de plus d'un milliard de francs pour la Suisse. Le Conseil national a accepté un contre-projet où seuls les traités qui modifient la Constitution seraient votés en référendum. La Suisse, c'est la question. La la Suisse doit-elle confier les rênes de sa politique internationale au peuple, aux citoyens, un dimanche de votation après l'autre. On va en débattre ce soir. Isabelle Moret, tout d'abord, pourquoi est-ce que vous êtes contre? A priori, ça a l'air partir d'une bonne idée. Hein. On donne au peuple le choix de diriger la politique internationale de la Suisse.
Alors écoutez, le texte de l'initiative demandait grosso modo que presque pour tous les traités internationaux, il y ait un vote obligatoire du peuple, puisque nous avons un système en deux phases avec le référendum obligatoire, c'est-à-dire le peuple et les cantons doivent se prononcer obligatoirement actuellement lorsqu'il y a l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales, et un système de référendum facultatif, c'est-à-dire qu'il faut récolter 50 000 signatures pour que les citoyens se prononcent sur les traités internationaux d'une certaine importance. Et l'ASIN voulait en clair se dispenser de récolter ces signatures pour qu'il y ait sur ces traités d'une certaine importance directement un référendum obligatoire.
Et donc là,
ça allait beaucoup trop loin. C'est-à-dire que on ne peut pas voter sur presque tout et n'importe quoi. D'abord, ça a un coût important. On a estimé que ça ferait quand même environ, grosso modo, 13 traités internationaux par année supplémentaires qui seraient soumis au peuple. En plus, ce serait des traités d'une certaine importance. On ne savait pas exactement ce que ça regroupait. Donc, on allait devoir discuter pendant des heures au Parlement pour savoir si tel ou tel traité allait être soumis au référendum obligatoire ou pas. Mais par contre, il y avait quelque chose d'intéressant. C'est vrai que dans notre droit actuel, il y a une lacune. Si un traité international contient des dispositions qui sont de rang constitutionnel, c'est-à-dire que si le Parlement de lui-même avait estimé que c'est une modification de la Constitution et donc qui aurait entraîné un référendum obligatoire, là, c'est justifié qu'il y ait également un référendum obligatoire
pour ce
traité international. Donc on a tenu compte de l'essence de cette initiative qui allait à nouveau beaucoup trop loin et on a proposé un contre-projet afin que les citoyens puissent avoir plus de droits qu'actuellement. Donc on a tenu compte de la demande qui a été faite.
Mais pas aussi loin que ce que demandait l'ASIN. On a
non,
bien
parce
compris.
Ça allait beaucoup trop loin.
Isabelle Moret, si vous le permettez, on aimerait entendre Oscar Freisinger. Isabelle Moret dit bien, vous allez étouffer la démocratie directe avec une multitude de votations si on vous suit.
C'est pas vrai, l'administration parle de 2 à 3 votations supplémentaires par année. C'est ce qu'ils ont dit aujourd'hui en tout cas. Ça ne concerne pas tous les contrats, ça concerne uniquement des contrats importants, avec des incidences financières importantes. Et puis, la double majorité, dans le cas d'un référendum obligatoire, c'est pas innocent, ça veut dire qu'il faut la majorité des cantons et du peuple. Là, par exemple, pour le contrat de Schengen, ça a passé uniquement avec la majorité du peuple, mais ça n'a pas eu la majorité des cantons. Et on aurait évité les ennuis que nous avons actuellement avec une immigration que nous ne contrôlons plus, une absence de contrôle aux frontières, une insécurité qui augmente. Donc voilà pourquoi c'est important de jouer le jeu de la démocratie jusqu'au bout. Donc venir me dire la démocratie est antidémocratique, plus on donne de démocratie, plus on paralyse la démocratie. Bon, alors, donc, il faut de la dictature. Alors, comme ça, on les garantit que les gens ne vont pas voter. Comme ça, on risque de rien paralyser du tout.
Isabelle
et quant
Moret.
Au niveau des frais, c'est pas vrai que ça augmente les frais pour l'État, puisque, et ça, je tiens d'une étude d'Yvan Blot, qui est un spécialiste du droit en France, qui m'avait invité la semaine dernière pour aller faire une conférence. Il a fait le calcul un peu partout sur la planète où existent des systèmes de démocratie directe, comme dans certains États américains, en Allemagne, etc. On calcule qu'il y a environ 30% de taxes et d'impôts en moins parce que les gens, évidemment, sont amenés à se prononcer régulièrement sur leur propre porte-monnaie.
Ouais, alors ça, donc, là, on a pris un peu de hauteur par rapport au débat qui nous intéresse aujourd'hui. Mais Isabelle Moret, ce que nous dit aussi Oscar Freisinger, on pourrait résumer aussi comme ça. La démocratie, ça n'a pas de prix, en quelque sorte. C'est une valeur, il faut la défendre. Qu'importe si ça coûte quelques millions, si on peut voter de plus, c'est bénéfique.
En l'occurrence, ce serait 100 millions par année de plus, d'après les estimations du Forum de politique étrangère.
C'est n'importe quoi.
Et je vous rappellerai encore juste que, justement, Schengen et Dublin permettent de limiter l'immigration le nombre de réfugiés ou de faux réfugiés en Suisse. C'est bien
mais Isabelle
ça que
Moret,
nous avons
100 soutenu. Millions de francs, pourquoi pas après tout si le peuple décide, on vote sur les grands traités internationaux que conclut la Suisse. Qu'est-ce qui vous embête?
Alors oui, Voter sur les grands traités internationaux conclus que la Suisse, c'est ce que permet justement le contre-projet. Dès que cela a une importance de niveau constitutionnel, eh bien, dorénavant, il y aura un référendum obligatoire, c'est-à-dire que le peuple et les citoyens et les cantons se prononceront obligatoirement dès qu'il y a une modification de niveau constitutionnel. Donc là, c'est une amélioration, un renforcement des droits politiques du citoyen. Par contre, on ne peut pas voter sur franchement tout et n'importe quoi, parce qu'il faut bien voir qu'on ne sait pas ce qui aurait été couvert par cette initiative de l'ASIN, où à nouveau les termes étaient indéterminés. C'est pour ça qu'on se dispute avec M. Franziger sur le nombre de traités internationaux qui auraient été soumis par année, parce que cette initiative parle d'importance. Qu'est-ce que ça veut dire importance? On ne sait pas. Et pendant ce temps, vous voyez, la Suisse a conclu un accord avec un pays. On va leur expliquer qu'il faut attendre pendant des mois et des mois sur un sujet qui est peut-être d'importance secondaire, alors que dans certaines négociations, eh bien, c'est un tout qui est négocié. Et donc, du point de vue international, ça fragiliserait énormément la Suisse.
Oscar Freisinger.
Moi, je crois dans les vertus de la lenteur, parce que je m'aperçois qu'à vouloir se hâter, comme fait par exemple notre ministre des Affaires étrangères ces derniers temps, elle se plante régulièrement. Alors ça, vaut peut-être mieux se prendre le temps, faire les choses avec une large base de la population qui est d'accord avec ce qu'on décide. Un objet de plus par votation, alors on vote 3-4 fois par année, qu'il y a un objet de plus ou de moins, et on me dit que c'est 100 millions, non mais on se moque de qui là? C'est d'une absurdité totale. Je vous rappelle que des objets important comme la convention de Berne, qui traite par exemple des grands fauves comme le loup, etc. Nous avons signé cette convention, ça n'a jamais passé devant le peuple, et maintenant nous subissons quelque chose qui nous prend pieds et poings liés dans un contrat international que nous ne pouvons plus modifier, plus influencer. Là, il faudrait faire voter le peuple, et nous aurions pu par exemple y introduire une réserve pour les grands fauves. Convention alpine qui touche 60% du territoire, ça c'est des choses qui échappent au peuple. Heureusement, le Parlement, on a réussi à faire le lobbying qu'il fallait pour faire refuser cela, mais c'est 60% du territoire où vous faites carrément plus voler un hélicoptère, où vous avez une énorme peine à construire une nouvelle route.
Isabelle Moret, c'est quand même un scandale. On entend le conseiller national valaisan, là, les grands fauves, hein, c'est un peu le sujet du canton, on parle du loup, mais ce genre d'exemple concret, la convention alpine, protection du loup, etc., là, on n'a rien à dire.
N'oubliez pas que le référendum facultatif existe. La question, c'est de savoir est-ce que ça doit être un référendum obligatoire, c'est-à-dire que les opposants doivent être dispensés de récolter les 50 000 signatures ou pas. Simplement, dans le système tel que nous allons le modifier, c'est-à-dire en améliorant les droits actuels du citoyen, eh bien, il y a un référendum obligatoire, c'est-à-dire sans que personne ne le demande, les citoyens, avec majorité des citoyens et du peuple, vont pouvoir se prononcer parce que c'est tellement important que cela va modifier la Constitution ou du moins que c'est de rang constitutionnel. Par contre, pour les autres traités, eh bien, c'est un référendum facultatif, c'est-à-dire qu'il faut au moins 50 000 citoyens qui ne soient pas d'accord pour que le peuple se prononce. Donc c'est juste une hiérarchisation entre ce qui est très très important et de niveau constitutionnel et ce qui nécessite au moins une opposition de 50 000 personnes.
Oscar Freisinger, jouons carte sur table parce que vous invoquez la menace d'une adhésion à l'Union européenne par la fenêtre. Vous savez bien que ça ne risque pas d'arriver. Le jour où il faudra adhérer, on va nous poser la question. Là, la menace, elle est un petit peu exagérée.
Ah, mais attendez, c'est par tranche de salami que ça se fait très habilement. On s'implique à tel point, à travers différents contrats internationaux, que finalement, la démocratie directe et la souveraineté du pays sont vidées de leur substance. C'est une coquille vide. C'est ce qu'ils sont en train de faire, à travers la justice internationale ou à travers des contrats internationaux. Moi, je me pose la question, pourquoi mes adversaires ont aussi peur de la démocratie directe? Ça les ennuie, évidemment, toutes ces campagnes de votation, parce qu'il faut se justifier devant le peuple. C'est beaucoup plus facile de faire partie de l'élite européenne, où on est dans sa petite bulle, on décide librement, on n'a jamais de compte à rendre devant le peuple. Ça, c'est naturellement le modèle dont rêvent la plupart de mes collègues, et ça me met mal à l'aise. Le flou que l'on reproche à notre initiative, parce que nous parlons de contrats importants et nous définissons un peu ce que c'est, quand eux disent, dans leur contre-projet de rang constitutionnel, alors là, je vais rigoler, le jour où ils vont essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire un contrat qui est de rang constitutionnel. C'est tout aussi flou, donc c'est pas une amélioration par rapport à notre texte.
Le mot de la fin, rapidement, Isabelle Moret, sur ce point-là, de rang constitutionnel, ce sera quoi?
Alors, ce qui est actuellement dans la Constitution, c'est-à-dire c'est une modification qui entraînerait une modification des articles actuels de la Constitution, donc c'est plus facile à définir que l'importance qui en soi ne figure pas noir sur blanc dans la Constitution, et j'aimerais juste ajouter que nous n'avons pas peur de présenter nos traités devant les citoyens. La preuve en est, vous citiez Schengen tout à l'heure, puisqu'il y a eu cette votation et le peuple nous a donné raison, contre votre avis, Monsieur Freisinger.
Les cantons ont voté non, et si ça avait été la double majorité, ça n'aurait pas passé.
C'est terminé. Merci beaucoup, Oscar Freisinger. Isabelle Morin. Vous souhaite une excellente soirée.
Merci, Farine.
Merci, bonne soirée.
Infotrafic RSR.
Le trafic reste dense sur l'autoroute de contournement de Genève. De forts ralentissements sont à présent constatés entre l'échangeur de Perly et le poste de douane de Bardonnay en direction de la France. En Valais, la route principale Martigny-Grand-Saint-Bernard est fermée entre Martigny et Martigny-Combes en raison d'un accident. Veuillez suivre la signalisation.
Et c'est une information de notre bureau Genevois. Les anciens magistrats de la ville de Genève, Christian Ferrazzino et Pierre Muller, sont blanchis de toute accusation pénale dans l'affaire du 25 rue du Stand. Cette affaire, on s'en souvient, c'était le scandale politique il y a 5 ans à Genève. Scandale lié à cet immeuble racheté par la ville pour un prix complètement surfait. La justice genevoise a attendu jusqu'à l'an dernier seulement pour vraiment enquêter sur cette affaire. Et aujourd'hui, Mathieu Cuplin, vous nous annoncez que les deux anciens magistrats ne feront donc l'objet d'aucune poursuite.
Oui, le procureur Dario Zani, chargé de l'épineux dossier du 25 rue du Stand, nous l'a confirmé aujourd'hui. Après avoir entendu plusieurs fois Christian Ferrazzino et Pierre Muller, il exclut désormais toute poursuite pénale contre eux. Et c'est une annonce qui n'allait pas de soi, car on sait que le procureur qui a rouvert le dossier l'an dernier enquête sur des suspicions de corruption et de gestion déloyale des intérêts publics. Et on se souvient surtout dans quelle tourmente avait été pris Christian Ferrazzino, l'ancien élu de l'Alliance de gauche, alors titulaire de l'aménagement, et son collègue libéral Pierre Muller, qui était chargé des finances. C'était du jamais vu à Genève. Leur bureau avait été perquisitionné. Ils avaient même écopé d'un blâme du Conseil d'État début 2006. Et on peut dire que cette affaire avait signé la fin de leur carrière politique.
Alors, comment arrive le procureur Zani à cette conclusion qu'ils n'ont pas fauté?
Alors effectivement, on peut apparemment rien leur reprocher sur le plan pénal, ça c'est désormais établi. Il ressort plutôt qu'ils n'avaient pas toutes les cartes en main pour juger de la pertinence de l'achat de l'immeuble. Alors si les magistrats étaient mal informés, était-ce dû à l'incompétence de leur service ou y a-t-il eu peut-être une volonté délibérée de les tromper sur la marchandise? Le procureur poursuit son enquête sur ce point du côté des hauts fonctionnaires de l'époque, mais aussi du côté du courtier immobilier et de l'ancien propriétaire de l'immeuble.
Mathieu, ça veut dire qu'il pourrait quand même y avoir des inculpations dans cette affaire et peut-être donc un procès ?
Alors peut-être, le procureur devrait décider d'ici cet été s'il classe le dossier ou s'il procède à des inculpations. Mais procès ou pas, après toutes ces années, les Genevois sauront enfin un peu mieux ce qui s'est passé grâce à l'enquête du procureur. De quoi peut-être se consoler un petit peu, car on se souvient que le 25 rue du Stand avait coûté la bagatelle de 31 millions plus 8 millions en travaux, alors que des expertises l'évaluaient plutôt autour de 20 millions. Et cet argent public versé en trop, les contribuables ne le reverront sans doute jamais.
Mathieu Cuplin, vous êtes notre correspondant à Genève, merci. Et du côté du canton de Vaud, cette fois, il y aurait de l'illégalité au niveau du Conseil d'État, et c'était il n'y a pas 5 ans, mais bien aujourd'hui. C'est en tout cas ainsi que la Fédération des sociétés de fonctionnaires vaudois, la FSF, interprète une récente décision du tribunal des prud'hommes de l'administration cantonale, tribunal qui a donné raison à une enseignante qui a été obligée de partir en retraite anticipée. D'ailleurs, ils sont nombreux, les fonctionnaires soumis à cette retraite anticipée obligatoire. Or, elle ne serait donc pas légale, Patrick Lefort. Tout cela plonge forcément le gouvernement vaudois dans un certain embarras.
L'État de Vaud met automatiquement à la retraite forcée ses collaborateurs s'ils remplissent deux conditions. Premièrement, qu'ils aient cotisé 37 ans et demi à la caisse de pension et deuxièmement, qu'ils aient atteint l'âge minimum de la retraite. Problème, ces départs sont décidés sans base légale, estiment la FSF et la Société Pédagogique Vaudoise. Pour mettre cette enseignante à la retraite, le département de la formation s'est basé sur une simple décision du Conseil d'État datée du 11 novembre 2009. Les deux syndicats enfoncent le clou. Le seul motif du gouvernement est économique, qu'on se débarrasse des collaborateurs expérimentés parce qu'ils coûtent davantage que les jeunes.
Donc si ce jugement fait jurisprudence, il pourrait concerner effectivement un certain nombre de fonctionnaires mis prématurément à la retraite.
Et sur cette question, le Conseil d'État est peu loquace. Deux professeurs du CHUV sont par exemple concernés. Contactés par téléphone, Pierre-Yves Maillard en charge de la santé se borne à nous dire qu'une convention a été signée avec chacun des deux professeurs et qu'un changement de jurisprudence ne changerait rien à la situation. Le socialiste nous renvoie pour les questions générales vers Pascal Broulis qui lui-même nous renvoie chez son chef du service du personnel, Philippe Grund, et chez Jean-Claude Mermoux, conseiller d'État chargé de la caisse de pension. C'est finalement le haut fonctionnaire qui nous éclaire. Il fait une lecture différente du jugement du TRIPAC, le tribunal des prud'hommes. La base légale ne manque pas, dit-il. La compétence d'imposer un départ à la retraite est inscrite dans la loi sur la caisse de pension. Le problème, c'est que cette fameuse décision du Conseil d'État n'a jamais fait l'objet d'une publication en bonne et due forme. Philippe Grund va prendre le temps d'étudier les considérants avant de décider s'il recourt contre la décision du TRIPAC.
Merci Patrick Lefort. Vous êtes notre correspondant pour le canton de Vaud.
Et on va se rendre dans le canton de Zurich où l'UDC va connaître un automne chaud avec deux nouveaux nominés pour les candidatures au national. L'ancien patron de la banque Swiss First, Thomas Matter, et le cofondateur des magasins Mobile Zone, Hans-Ulrich Lehmann, sont entrés en lice pour les élections parlementaires de cet automne. L'un et l'autre sont réputés riches, très riches, à hauteur de plusieurs centaines de millions de francs. Ils incarnent aussi une génération de patrons dents longues qui ont réussi dans les années 90 et qui aspirent maintenant au pouvoir politique. C'est l'occasion d'un portrait avec vous, Frédéric Blassel.
Eh oui, Thomas Matter a certes grandi à Bâle-Campagne, mais dans la finance plus qu'ailleurs, l'argent n'a pas d'odeur. Il entend donc régater pour le national au nom de l'UDC zurichoise, pour laquelle le fondateur de l'ex-banque Swiss First incarne la génération des Golden Boys des années 90. Aujourd'hui, âgé de 45 ans, il se montre plus que jamais sûr de lui, à l'aune d'une cagnotte personnelle estimée à des dizaines, voire à des centaines de millions de francs. Fils de l'ancien directeur de la caisse de pension du géant balois de la pharma Roche, Thomas Matter a compris très tôt que les milliards de la prévoyance sont une source formidable de commissions pour qui sait gérer adroitement ses mandats.
Il a d'ailleurs été attaqué publiquement pour sa gestion, Frédéric Blassel.
Tout à fait. En 2006, la fusion controversée de Swiss First et de la Banque Am Bellevue lui a valu une réputation de jongleur financier. Attaqué par la NZZ Am Sonntag, il n'a obtenu d'excuses du journal dominical que sur deux des 17 aspects qu'il avait contestés. Et en 2007, la Commission fédérale des banques a effectivement conclu que sa gestion n'avait pas donné la garantie d'une activité irréprochable au terme de la loi fédérale sur les banques.
Et alors, l'autre candidat UDC, Hans-Ulrich Lehmann.
Eh bien, Hans-Ulrich Lehmann est fils de paysan. Apprenti de commerce, il est à 24 ans chef des finances de la Fédération laitière zurichoise. Autre prodige, il fait fortune à hauteur de 200, voire de 300 millions de francs, dit-on, comme importateur de téléphones portables. Il a été municipal UDC à Glattfelden de 1998 à 2006, une affiliation plus ancienne que celle de Thomas Matter. Ce dernier est davantage connu au club am Remweg, où l'on retrouve notamment Valentin Chapero, qui vient de s'illustrer dans l'affaire Sonova, l'ancien propriétaire des magasins Denner, Philippe Guédoul, ou encore l'ex-directeur général de l'UBS, Marcel Ronner, tous de fervents néolibéraux, secondés dans ce rôle par l'actuel rédacteur en chef de la Sonntag Zeitung, Martin Spiller.
Frédéric Blassel, en direct de Zurich.
Forum, Nathalie Ducommun, Philippe Reva.
Les ministres des Affaires étrangères du groupe de contact sur la Libye se sont réunis aujourd'hui à Doha, au Qatar. Le chef de la diplomatie française, Alain Juppé, en a profité pour demander une nouvelle fois le départ du colonel Kadhafi. Alain Juppé a plaidé pour une pression militaire plus forte sur la Libye afin d'imposer un cessez-le-feu dans le pays. Il ne veut pas entendre parler du risque d'enlisement militaire en Libye. Et pourtant, on va en parler avec vous, Alexandre Vautravers. Bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de la revue militaire suisse, professeur à Genève, l'université Webster. L'enlisement, on y est là, non?
Alors effectivement, on y est, et puis vous avez parlé des exigences ou des phrases du ministre des Affaires étrangères français. C'est quand même intéressant de voir que les exigences semblent augmenter, et il y a une véritable surenchère de ces exigences, puisqu'on est passé d'une demande de zone d'exclusion aérienne vers l'arrêt, le stoppage des attaques contre les populations civiles. Ensuite, on a parlé de la destruction des moyens lourds, et maintenant que l'essentiel de ces moyens lourds sont détruits, on parle explicitement d'empêcher les forces du leader Kadhafi d'entrer dans les villes, alors que ce sont quand même des troupes d'un État souverain. Ce qui est intéressant, c'est maintenant plus tellement cette question du cessez-le-feu, mais la question du contrôle de ce cessez-le-feu.
Mais de votre avis de militaire, Alexandre Vautravers, c'est perdu, là, disons, l'objectif final, renverser Kadhafi, là, ça ne marchera pas avec les armes?
Bon, si vous regardez d'autres exemples, et je pense que ici l'Irak peut nous interpeller, je ne pense pas que cette opération va se terminer ni demain ou après-demain, mais peut-être va durer pendant une période assez longue. Et ce qui est en train d'être envisagé maintenant, c'est de soutenir les rebelles. Alors c'est un peu un cache-sexe. On ne veut pas leur donner directement des armes, mais enfin on les entraîne, on essaye de les encadrer pour qu'ils se battent. On organise depuis le Qatar des plans de financement pour leur permettre d'obtenir des ressources et donc des moyens de combat, alors que la résolution de l'ONU 1973 prévoit tout de même un embargo vers la Libye. Donc c'est une question de temps, plus ou moins long selon l'intensité avec laquelle ces ministres des Affaires étrangères s'expriment. Et en fin de compte, il faut juste peut-être rappeler une chose, Alain Juppé et Hillary Clinton ne sont pas les chefs de l'État et ne sont pas les commandants en chef de leurs armées respectives.
Effectivement. Alexandre Vautravers, mais pourquoi est-ce que l'OTAN semble, entre guillemets, renacler à mettre beaucoup plus de forces militaires dans cette affaire?
Alors, il y a beaucoup de raisons, mais d'une part, certains participants les plus actifs, les plus adamants, les plus ardents demandeurs de ces interventions sont aujourd'hui quelque peu embarrassés, puisque ils ont voulu absolument à tout prix écarter l'OTAN, ce qui a fait que la plupart des membres de l'OTAN ont contribué des forces tout à fait marginales et peu importantes. L'Espagne, par exemple, avec seulement 4 avions, c'est-à-dire la même hauteur de contribution que le Danemark. Ça vous dit quand même quelque chose. Et maintenant qu'on a gentiment poussé ou écarté, qu'on n'a pas voulu entendre parler d'une structure de commandement intégré de l'OTAN, eh bien maintenant ce sont ces États-là qui doivent tout de même admettre qu'ils n'ont pas les ressources, une fois les États-Unis partis, de poursuivre ces opérations militaires à la même fréquence.
Alexandre Vautravers, rédacteur en chef de la revue Militaire Suisse, militaire vous-même, alors certes pas professionnel en Suisse, mais au gradé de milice. Vous avez, toute proportion gardée, enfin toute réserve faite, une certaine admiration pour le colonel Kadhafi, cet éternel survivant, puisqu'il a, ce qu'il a réussi là, comme il a réussi à survivre militairement.
Bon, je crois pas que le mot admiration partirait ou ferait place ou trouverait sa place dans une de mes phrases, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Il faut tout de même admettre que dans cette opération, il y a eu une grande naïveté de la part de certains dirigeants et peut-être certains calculs politiques de certains dirigeants d'imaginer que Kadhafi allait gentiment sortir pour laisser la place à quelqu'un d'autre est quelque chose qui me paraît un peu étrange. Je dirais c'est plus l'incapacité de gérer, de coordonner, de se mettre d'accord sur des objectifs clairs et précis des forces de la coalition qui est ici à l'œuvre, beaucoup plus que la ruse ou le calcul ou les compétences de Kadhafi.
Il a tout de même réussi à s'en tirer avec quelques troupes, hein, bon, commandées par ses fils, qui n'ont pas fait défection, hein, qui manifestement se battent encore aujourd'hui. On allait imaginer que tout allait s'écrouler, ça n'a pas été le cas.
Bon, je ne sais pas si on peut véritablement parler de victoire, soit dans un sens, soit dans l'autre. Il faut dire que cette armée composée, pour une part, en tout cas de professionnels, a su s'adapter, c'est-à-dire que rapidement, les moyens lourds, les moyens les plus visibles ont peut-être été détruits. On parle aujourd'hui de taux de raids, de missions qui ont permis de neutraliser environ 10 ou 11 véhicules en moyenne chaque jour. Ça fait maintenant plusieurs semaines que ces opérations militaires durent. Alors on peut s'attendre au bout de quelques semaines, effectivement, à ce que les forces armées libyennes s'adaptent. Et puis elles utilisent finalement les mêmes moyens, les mêmes tactiques que les insurgés, le même type de véhicule. Et donc on peut se poser maintenant la question de la solution militaire de cette crise, puisque plus de missions aériennes, plus de frappes aériennes de l'OTAN ou des forces coalisées va très probablement produire à terme plus de bavures et plus de dégâts collatéraux.
C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Je vous remercie beaucoup, Alexandre Vautravers.
Merci à vous.
Excellente soirée.
La tension est à son comble entre l'Italie et les autres membres de l'Union européenne. Au sortir hier d'une réunion européenne sur le dossier épineux des migrants d'Afrique du Nord, le ministre italien de l'Intérieur, Roberto Maroni, s'est même demandé, je cite, si cela fait sens de rester au sein de l'Union. Rome a à nouveau sollicité l'aide de ses partenaires, invoqué la solidarité européenne, mais rien n'y a fait. Les États membres de l'Union n'y entendent pas, ne veulent pas y répondre et ont même mis en garde l'Italie contre toute mesure qui leur imposerait de rétablir des contrôles aux frontières. Alors, est-ce que l'Italie est vraiment abandonnée de ses partenaires sur ce dossier de la migration ou est-ce qu'elle s'est elle-même rendue responsable de son sort? Deux invités nous ont rejoints au téléphone. Le député démocrate italien Sandro Gozzi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de la commission parlementaire sur les politiques de l'Union européenne et membre du comité parlementaire de contrôle en matière d'immigration. Et Hélène Flautre avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes eurodéputée française d'Europe Écologie, spécialiste des dossiers d'immigration également. Sandro Gozzi, l'Italie est seule contre tous sur ce dossier?
L'Italie s'est mise dans une position d'être seule contre tous. Notre gouvernement a commis une série d'erreurs et stratégiques et tactiques. Donc aujourd'hui, il se trouve isolé et je crois qu'il y a un partage de responsabilités à faire entre l'incapacité à gérer la crise du gouvernement et le manque de courage, de vision et la myopie européenne. Donc c'est, si, on parle souvent du partage du fardeau. Je crois que le premier partage à faire, c'est celui des responsabilités entre Bruxelles, Paris, Berlin et Rome.
Sandro Gozzi, en même temps, dans Forum, justement, le 28 mars dernier, vous affirmiez que l'Union européenne devrait en faire plus. Vous invitiez votre gouvernement, car il ne l'avait pas encore fait à ce moment-là, d'invoquer la direction de protection temporaire qui impliquait justement la reconnaissance d'un statut temporaire pour les immigrés. L'Italie l'a fait et puis ça n'a toujours pas débloqué la situation. L'Europe ne vous soutient pas. Vous le déplorez tout de même.
Oui, non, je crois que là, c'est une évaluation différente qu'on fait entre Rome et Bruxelles sur la possibilité d'activer cette directive protection temporaire que moi, j'avais proposé déjà, au nom de mon groupe, j'avais déjà proposé au début janvier au gouvernement de l'activer, pas seulement et pas nécessairement sur la question tunisienne, mais sur la question du Maghreb en général et notamment la question libyenne. Parce que je crois que s'il y a peut-être, on peut discuter de la condition d'appliquer cette directive pour ce qui concerne certaines Tunisiens, il est clair que la directive pourrait s'appliquer pour tous les réfugiés politiques somaliens, érythréens, etc., qui passent par la Libye et qui arrivent sur nos côtes. Donc là aussi, c'est une question d'interprétation. Mais vous savez, la question, ce n'est pas vraiment la question d'interprétation des règles juridiques. La question, c'est qu'il n'y a pas l'Europe dont on a besoin. Il n'y a pas une véritable politique d'immigration européenne. Et dans l'absence de l'Europe, c'est les égoïsmes nationaux qui prévalent. Et donc, il y a une attitude égoïste qui a toujours été eurosceptique de la part du gouvernement de Berlusconi et de la Ligue du Nord, qui tout d'un coup découvre les bienfaits de l'Europe parce qu'il est sous la pression. De l'autre côté, il y a des gouvernements à Paris, à Berlin, qui sont beaucoup plus concentrés sur leurs questions électorales et politiques internes que sur la nécessité de construire, de bâtir une véritable politique de l'immigration. On a un traité de Lisbonne qui parle des politiques d'immigration, mais qui en fait encore n'existe pas. On a des normes minimales, on a des standards communs, mais on n'a rien qui peut...
Pas de vision claire et pas de... Voilà, Sandro Gozzi. J'imagine, Hélène Flaudre, que vous êtes assez d'accord avec ce diagnostic. On a le sentiment qu'il y a une patate chaude, cette immigration tunisienne. Tout le monde se la repasse parce qu'il n'y a pas de vision claire, il n'y a pas de ligne claire en matière d'immigration. C'est ça qui se passe en ce moment ?
Oui, moi je considère que ce jeu de ping-pong entre États membres européens est proprement indécent, parce qu'il faut considérer aujourd'hui que ceux qui sont un peu laissés seuls, ce sont les Tunisiens. Toute proportion gardée, c'est-à-dire relativement à la population, la Tunisie a, depuis les événements à Libye, quand même accueilli à peu près 50 fois plus relativement à sa population, que l'Italie. Donc je crois qu'on fait ici, en Europe, en Italie, en France, en Allemagne, en Autriche, une affaire d'État dramatique, d'une situation qui, gérée avec sérénité et pragmatisme, pourrait très bien ne poser aucun problème. Je veux dire, il est complètement illusoire de penser que l'Italie pourrait garder sur son territoire 22 000 Tunisiens, ce qui en soi n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que la plupart de ces gens veulent venir visiter de la famille en France. Donc je crois que notre devoir à la fois de protection des populations qui a conduit à une opération militaire en Libye et notre devoir de solidarité et de soutien à la transition démocratique en Tunisie devrait nous appeler chacun des États membres de l'Union européenne et la Commission et le Conseil et les institutions européennes à faire preuve de pragmatisme. C'est aussi une manière de soutenir la transition, oui, de permettre à ces Tunisiens de pouvoir pour un temps à déterminer, à discuter, circuler librement dans l'espace Schengen et visiter les personnes qu'elles connaissent ici en France et auxquelles elles n'ont pas pu accéder depuis de très nombreuses années en raison des politiques répressives et sécuritaires qui avaient été négociées avec M. Ben Ali. Voilà.
Mais Hélène Flaudre, si la majorité des États ne veulent pas de ce statut de visa temporaire Schengen, c'est bien parce que l'immigration est inscrite dans tous les pays, dans tous les agendas politiques intérieurs des pays et que du coup, avoir une vision européenne n'est juste pas possible. Chaque pays doit répondre à ses électeurs sur cette question-là. On sait que les citoyens sont très concernés par l'immigration. C'est une espèce de problème récurrent du fonctionnement de l'Union européenne, non ?
Mais écoutez, moi je crois que oui, les États membres sont complètement omnibulés par qu'elle pense être les opinions publiques nationales, mais qu'elle contribue aussi à construire dans la désignation des boucs émissaires. Et donc, c'est une espèce de jeu qui ne peut que mal se terminer. Alors même que tous les pays européens ont besoin de migrants légaux, est-ce qu'il va falloir attendre des manifestations du patronat dans tous les États membres pour qu'on débloque enfin les canaux de migration légale? C'est quand même insensé. Je veux dire, ces gens ne veulent pas voir la réalité comme elle se dessine aujourd'hui et pour les années à venir.
Sandro Gozzi, comment est-ce que l'Italie s'est mise dans cette situation de minorité?
À mes yeux, tout d'abord, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, parce que au lieu de gérer avec pragmatisme et sang-froid une crise sans doute aiguë mais gérable, elle a créé l'alarme généralisée. Cette politique de la peur, cette politique qui s'est fondée sur des effets annonces par lesquels le ministre Maroni parlait des exodes bibliques du Maghreb vers l'Italie, évidemment n'a pas aidé préparer l'opinion publique à accepter le fait que nous devons assumer nos responsabilités. Il y a une crise majeure, mais il y a aussi des changements majeurs positifs qui se passent du côté sud de la Méditerranée, et je crois que au lieu de créer l'alarme on va être envahi par les Tunisiens, il fallait préparer l'opinion publique, s'est préparé, parce que de toute façon, même nos services d'information, de renseignement, ils nous avaient prévenu, ils avaient prévenu le gouvernement déjà en décembre qu'il y aurait eu des événements, que les événements tunisiens auraient amené à ces flux migratoires, et la même chose on peut dire pour ce qui concerne la Libye, et tous les Somaliens, les Érythréens qui sont dans les centres de Guédassi, et évidemment maintenant ils ne peuvent pas retourner au camp d'Afrique, ils veulent aller vers des pays qui peuvent reconnaître leurs droits politiques et leur statut de réfugiés. Ben, il est clair que les gouvernements italiens a mal géré la question du point de vue.
Hélène Flautre, juste pour conclure.
Il a mal géré vis-à-vis de ses partenaires.
Parce qu'il on a bien compris.
Terrains, il s'est mis dans un bras de fer qui n'a pas amené loin, parce qu'en plus il a retrouvé de l'autre côté des gouvernements qui sont affectés par la même myopie. Parce que s'il y a une chose
on a compris,
commun,
Sandro Gozzi.
Ce n'est pas une politique commune, c'est la myopie commune partagée par Sarkozy, Merkel et Berlusconi.
Je vous remercie, Sandro Gozzi, en direct de Rome, là où ça discute beaucoup, apparemment.
L'avenir où on vote la nouvelle loi pour éviter les nouvelles procès contre Berlusconi.
Hélène Flautre était également avec nous. Je vous remercie, eurodéputée française d'Europe Écologie. Bonne soirée.
Au revoir.
La Suisse est, je cite, un excellent modèle pour une évolution pragmatique du monde. Citation signée Jacques Attali, célèbre économiste, conseiller politique, intellectuel français. Citation tirée de son dernier ouvrage qui traite d'une idée qui lui est chère depuis quelque temps déjà. Il faut un gouvernement à l'échelle mondiale. Le livre s'intitule « Demain, qui gouvernera le monde ?» chez Fayard. Et Jacques Attali propose d'ouvrir 10 chantiers qui conduiront vers ce gouvernement mondial. Premier chantier, suivre l'exemple de la Suisse. On a rencontré Jacques Attali tout à l'heure. Pourquoi la Suisse est un exemple pour le monde? Écoutez sa réponse.
Parce que la Suisse s'est regroupée à partir de communes ou d'États qui étaient séparés et qui, confrontés à une menace externe, perte d'indépendance, ont décidé de se grouper et progressivement réussi à constituer une entité très structurée qui mélange des gens de langues différentes, de religions différentes, de cultures différentes. Et c'est donc à une échelle qui est évidemment plus petite que celle de la planète, un formidable modèle qui a d'ailleurs servi de modèle aussi à la construction européenne. Et la Suisse a mis très longtemps à se construire. On peut dire que sa construction a duré 3 ou 4 siècles. Pour le monde, c'est encore plus difficile puisqu'il faut faire à l'échelle du monde exactement ce qu'a fait la Suisse à une échelle beaucoup plus petite. Donc c'est le modèle parfait. Si le monde ressemblait à la Suisse, il n'y aurait plus de problème.
Vous dites très justement, vous revenez au fondement de la Suisse, qui était par opposition, il y avait une menace extérieure. Évidemment, si le monde opérait de cette façon, quelle est la menace extérieure qui justifierait que tout le monde se mette d'accord pour qu'on fasse un gouvernement mondial?
Puisque vous avez la gentillesse de citer ce livre, j'ai consacré un chapitre entier à la question des menaces qui devraient faire prendre conscience. Il y a à la fois des menaces globales, et puis il y a des menaces locales qui deviennent mondiales. Tout ce qu'on a découvert maintenant, c'est que plus rien ne reste local et qu'une menace locale devient globale si elle n'est pas prise en compte sérieusement. On voit par exemple qu'une crise financière en Californie déclenche une crise mondiale.
qu'un accident nucléaire au Japon concerne la planète entière. On a 1000 exemples, et j'en donne toute une série dans ce livre, de crises locales qui ont des conséquences planétaires et qui vont nous forcer progressivement à prendre conscience que nous sommes un petit village, que nous sommes soumis à des menaces externes, qui sont d'ailleurs souvent des menaces liées à notre propre comportement. Le cas de du météorite, c'est le seul cas véritablement d'une menace extérieure, mais il ne faut pas la négliger. L'humanité, la vie a été presque éteinte, 5 fois dans l'histoire, en particulier à cause de météorites. Donc ce n'est pas une menace anecdotique. Il y a même un astéroïde qui nous menace en 2036. Et si on ne prend pas des mesures très précises pour créer un système planétaire pour aller l'attaquer, le détruire ou au moins le détourner, nous risquons des problèmes.
Partons du principe effectivement que ces menaces existent et qu'elles puissent être constitutives d'une conscience mondiale, d'une volonté effectivement de s'unir pour y faire face. Vous savez que la Suisse, son fédéralisme, c'est le noyau, c'est le peuple, c'est la souveraineté du peuple. Il faut accepter que le peuple veut interdire les minarets. Il faut accepter, comme c'est débattu en ce moment même dans notre parlement à Berne, qu'un parti réclame que le peuple puisse se prononcer sur tous traités internationaux. Comment est-ce qu'on peut envisager ce pouvoir du peuple à l'échelle mondiale? Ça paraît fou.
Si on ne le fait pas, tout le monde veut une règle de droit mondiale. Tout le monde est pour une règle de droit mondiale, mais personne n'est pour un gouvernement mondial. C'est quand même contradictoire, parce que vous ne pouvez pas faire une règle de droit sans gouvernement. Et le mieux, c'est quand même un gouvernement démocratique, parce que sinon, ça se terminera avec une règle de droit dictatoriale à l'échelle de la planète. Donc, il faut d'abord prendre conscience qu'une règle de droit mondiale est nécessaire, évidemment nécessaire, sur tous les sujets, la finance, l'environnement, etc. Ensuite, il faut se dire, évidemment, il ne faut pas que ce soit une plutocratie, quelques gens cachés, avec la théorie de la conspiration, un complot, un groupe de gens qui vont diriger la planète. Évidemment pas. Donc, il faut une transparence. C'est pourquoi, dans mon livre, je propose à la fin de lancer maintenant des états généraux de la planète. Et d'ailleurs, je vais ouvrir dans quelques jours un site internet qui s'appellera états-généraux-du-monde.org où vous pourrez commencer à donner votre avis sur ce que peut être l'organisation de la planète. Il faut une transparence totale. C'est comme ça qu'on fait les choses. Il faut affronter, il faut avoir le courage. Évidemment, il faut garder à l'esprit que Hitler a été élu démocratiquement. C'est vrai, Hitler a été élu démocratiquement. C'est donc un énorme question, point d'interrogation sur la démocratie. Mais je crois malgré tout que la démocratie est de loin le moins mauvais de tous les systèmes.
Jacques Attali, dans vos 10 chantiers, il y a évidemment la question du Conseil de sécurité. Alors on ne va pas venir sur les innombrables réformes qu'il faudrait de l'ONU pour s'améliorer. Le Conseil de sécurité aujourd'hui, c'est un peu imparfait selon vos critères, mais le gouvernement du monde, récemment, à la lumière de l'actualité, 2 résolutions votées qui ont donné lieu à des interventions en Côte d'Ivoire, en Libye. Qu'est-ce que ça vous inspire? On peut déceler assez rapidement les risques d'ingérence, d'intervention parfois non justifiée.
Si on est un monde qui est rassemblé, l'ingérence est inévitable. Vous imaginez bien que le gouvernement de Berne, il lui arrive de faire des ingérences à Genève. C'est inévitable. Ça s'appelle pas ingérence, ça s'appelle solidarité, action collective, et il y a une police municipale, cantonale, et aussi une police fédérale. Donc, il faut l'admettre. Et de ce point de vue, ce qui est en train de surgir progressivement, c'est l'émergence d'une police planétaire. Alors, pour l'instant, elle s'appelle maladroitement, absurdement, dans certains cas, l'OTAN, parce que l'OTAN est un truc qui aurait dû disparaître, puisqu'il est lié à la guerre froide. Ça devrait s'appeler maintenant police planétaire. Et dans ce cas-là, ça prend un tout autre consensus. C'est celle qui était prévue depuis longtemps dans la charte des Nations Unies au chapitre 7, qui n'a jamais été mise en œuvre, et qui commence à surgir dans certains cas. Ce qu'on a fait en Libye, ce qu'on a fait en Afghanistan, ce qu'on a fait non pas en Irak, parce que là c'était tout à fait un acte de force d'un président des États-Unis, mais ce qu'on a fait démocratiquement par le Conseil de sécurité en Côte d'Ivoire, ça correspond à une police planétaire. Et je crois qu'on n'est pas loin, on va extrêmement vite dans l'intégration planétaire. Il suffirait de fusionner le Comité monétaire du Fonds monétaire international, le G20 et le Conseil de sécurité pour avoir un gouvernement mondial efficace.
Jacques Attali, en 1950, vous la connaissez bien, cette phrase de James Paul Warburg au Sénat américain. Nous aurons un gouvernement mondial, que ça vous plaise ou non. La question est seulement de savoir si c'est par conquête ou par consentement. Je vous la soumets, cette question, aujourd'hui, en 2011.
Elle pourrait être en épigraphe de mon livre, parce qu'évidemment, c'est ça. Il y aura ou un chaos planétaire, où le monde ressemblera à la Somalie, qui est un exemple parfait d'un pays sans État, chaos absolu. Le monde sera dirigé par des mafias qui prendront le pouvoir sur la planète progressivement dans le chaos et le désordre, où nous aurons une civilisation avec une structure de gouvernement cantonale et fédéraux sur le modèle suisse.
Modèle suisse, l'avenir du monde, selon Jacques Attali. Son dernier ouvrage, Demain, qui gouvernera le monde, chez Fayard.
Carole Dubuis, c'est la météo.
Les nuages seront de plus en plus nombreux dans le ciel ce soir. Ils annonceront une perturbation qui passera au-dessus de la Suisse romande demain. La matinée sera très nuageuse, les régions de plaine resteront néanmoins sèches. Dans l'après-midi, l'azur invitera quelques éclaircies du côté du bassin lémanique. En montagne, le temps restera couvert et quelques averses tomberont, leur quantité sera faible. La neige fera son apparition dès 1500 mètres. Le mercure se hissera jusqu'à 13, voire 15 degrés en plaine. À 1600 mètres, on tombera sur zéro. Un faible vent de nord-est soufflera en montagne. La bise nous tiendra également compagnie. Vendredi, les régions de plaine seront assez riches en soleil, tandis que les Alpes resteront davantage prisonnières des nuages. Quelques précipitations pourraient encore ennuyer la montagne. La limite pluie-neige s'abaissera à 1300 mètres. Une bise modérée s'installera jusqu'au week-end. Il fera jusqu'à 13, voire 16 degrés en plaine.
La météo avec alloboisson.ch 0848 444 111. Infotrafic RSR.
Sur l'axe Lausanne-Genève, un accident provoque des ralentissements entre Aubonne et Rolles en direction de Genève. Le trafic reste dense sur l'autoroute de contournement de Genève. On roule au pas entre l'échangeur de Perly et le poste de douane de Bardonnay en direction de la France. En Valais, la route principale Martigny-Grand-Saint-Bernard est fermée entre Martigny et Martigny-Combes en raison d'un accident. Et puis nous vous rappelons que la ligne Brigue-Lausanne n'est que partiellement ouverte au trafic ferroviaire entre Burier et Montreux. Il faut s'attendre à des retards. La durée de la perturbation n'est pas connue. C'est la fin de cette édition de Forum. Merci de l'avoir suivi. Philippe Vaudan, Ismaël Gonzato à la technique. On vous souhaite une excellente soirée sur la première où il est très exactement 19h.